J'appris à tresser mes cheveux en arrière pour qu'ils ne se prennent pas dans chaque branche et à attacher mes jupes aux genoux pour me protéger des barbes. À reconnaître les différentes fleurs grimpantes et les roses aux couleurs éclatantes, à repérer les libellules brillantes et les anneaux des serpents. Je gravis des pics là où les épées noires des cyprès pointaient vers le ciel, redescendant ka-un-ka dans les vergers où poussaient des raisins violets gros comme des coraux. Je parcourus les collines, les prairies bourdonnantes foisonnant de thym et de lilas, et laissai mes empreintes le long du sable jaune des plages. Je fouillai chaque anse et chaque grotte, découvris des baies paisibles, hospitalières pour les bateaux. J'entendis les loups hurler et les grenouilles coasser dans leur boue. Je caressai les scorpions marrons et brillants qui me défiaient avec leur queue. Leur poison n'était rien, un simple pinçon. J'étais ivre, plus que je ne l'avais jamais été en buvant du vin ou du nectar chez mon père. Pas étonnant que j'aie été si lente, pensais-je. Pendant tout ce temps, j'avais été un tisserand sans métier, un navire sans mer. Mais regardez un peu où je naviguais désormais. Le soir, je rentrais dans ma maison. Ces ombres ne me dérangeaient plus, car elles signifiaient que mon père avait déserté le ciel et que ses heures m'appartenaient. Le vide ne me dérangeait pas non plus. Pendant 100 ans, j'avais tenté de combler l'espace entre ma famille et moi. Remplir les pièces de ma maison était facile en comparaison. Je brûlais du cèdre dans la cheminée et sa fumée sombre me tenait compagnie. Je chantais, ce qu'on ne m'avait jamais permis auparavant, puisque ma mère prétendait que j'avais la voix d'une mouette qui se noie. Et lorsque je me sentais seule et que je m'apercevais que je me languissais de mon père ou de Glaucos au début, alors il y avait toujours la forêt. Les lézards y couraient à toute allure le long des branches. Les oiseaux y battaient vivement des ailes. Et quand elles me voyaient, les fleurs paraissaient se pencher vers moi, tels de petits chiens impatients qui trépignent et couinent pour être caressés. Elles m'intimidaient presque, mais jour après jour, je m'enhardis. Et finalement, je m'agenouillais sur la terre humide devant un buisson d'hélébore. Ces fleurs délicates se balançaient sur leurs tiges. Je n'eus pas besoin de couteau pour les couper, juste du bord de mon ongle, que les gouttes de sève rendirent collant. Je les déposai dans un panier recouvert d'un linge et ne les découvris qu'une fois rentrés, à l'abri derrière les volets soigneusement fermés. Même si je ne pensais pas que quiconque essaierait de m'arrêter, je n'avais l'intention de tenter personne non plus. J'examinai les floraisons posées sur ma table. Elles avaient l'air rabougries, étiolées. Je n'avais pas la moindre idée de ce que je devais en faire. Les couper en morceaux, les faire bouillir ou rôtir. Le baume de mon frère contenait une huile, mais j'ignorais laquelle. Les olives de cuisine feraient-elles l'affaire? Sûrement pas. Il fallait sans doute un ingrédient exceptionnel, comme de l'huile pressée des graines des fruits des Hespérides. Malheureusement, je ne pouvais pas m'en procurer. Je roulai une tige entre mes doigts. Elle tourna sur elle-même mollement, tel un asticot noyé. « Allons, me chapitrai-je, ne reste pas planté là comme un piquet. Tente quelque chose, fais-les bouillir, pourquoi pas ?» Comme je l'ai dit, j'avais un peu de fierté, et c'était bien. En avoir davantage m'aurait été fatal. Laissez-moi vous expliquer ce que la sorcellerie n'est pas. Ce n'est pas un pouvoir divin qui vient en un clin d'œil, d'une simple pensée. Elle nécessite d'agir, de manipuler, de planifier, rechercher, fouiller, sécher, couper et moudre, bouillir, parler et chanter. Et même après toutes ces étapes, elle peut échouer, ce qui n'arrive pas aux dieux. Si mes herbes ne sont pas suffisamment fraîches, si mon attention diminue, si ma volonté est faible, les drogues deviennent vertes et rances entre mes mains. En toute justice, je n'aurais jamais dû y venir. Les dieux détestent le labeur en général, c'est leur nature. Les activités qui s'en rapprochent le plus pour nous sont le tissage ou la forge, mais il s'agit plutôt de talent, et elles ne comportent pas de corvée, dans la mesure où toutes les parties laborieuses sont supprimées par les pouvoirs divins. La laine est teinte non pas dans des cuves puantes qui doivent être remuées, mais d'un claquement de doigts. Les pénibles activités d'excavation minière n'existent pas. Les minerais bondissent hors des montagnes de leur propre volonté. Personne ne s'abîme les doigts. personne ne fatigue ses muscles. La sorcellerie n'est rien d'autre que des corvées de ce genre. Chaque herbe doit être prélevée dans son habitat, récoltée à temps, déterrée, sélectionnée, effeuillée, lavée et préparée. Elle doit être manipulée dans tous les sens pour déterminer où résident ses pouvoirs. Jour après jour, patiemment, on doit jeter les essais ratés et recommencer. Alors pourquoi cela ne me dérangeait-il pas? Pourquoi cela ne dérangeait-il aucun d'entre nous? Je ne peux pas parler au nom de mes frères et de ma sœur. En revanche, pour moi, la réponse est facile. Durant des centaines de générations, j'avais parcouru le monde, somnolente et maussade, oisive et à mon aise. Je ne laissais aucune empreinte, je n'accomplissais rien. Même ceux qui m'avaient un peu aimé n'avaient pas eu envie de rester avec moi. Et puis j'avais compris que je pouvais infléchir le monde selon ma volonté, comme un arc se courbe pour une flèche. J'aurais effectué ce labeur 1000 fois afin de garder un tel pouvoir à portée de main. Je pensais, c'est ainsi que Zeus s'est senti la première fois qu'il a brandi la foudre. Au début, bien sûr, tous mes filtres furent catastrophiques. Des potions sans effet, des pattes qui se délitaient et restaient sur la table, inutiles. Je me disais que, si c'était bien d'utiliser un peu de rue, l'herbe de grâce, c'était encore mieux d'en mettre beaucoup, que 10 herbes mélangées auraient plus d'effet que 5, que je pouvais laisser mon esprit s'égarer sans que l'enchantement ne s'égare avec lui, commencer à préparer une potion et décider à mi-parcours d'en élaborer une autre. Je ne disposais même pas de la plus élémentaire connaissance des herbes que n'importe quel mortel apprend sur les genoux de sa mère. J'ignorais qu'en bouillant du millepertuis, on obtenait une sorte de savon, que le bois d'if, brûlé dans l'âtre, produisait un brouillard suffocant, que les coquelicots engendraient le sommeil et les lébores la mort, et que l'achillée millefeuille aidait les blessures à cicatriser. Tout cela, je dus l'assimiler par tâtonnement, à coups de doigts brûlés et de nuages fétides qui m'obligeaient à sortir en courant tousser dans le jardin. Au moins, me disais-je à mes débuts, une fois que j'aurais réussi à jeter un sort, je n'aurais plus à refaire tout ce travail. Mais même cela était faux. Peu importait le nombre de fois où j'avais utilisé une herbe, chaque récolte fonctionnait différemment. Une rose divulguerait ses secrets en étant moulue. Une autre devait être pressée. Une troisième macérée. Chaque sort représentait une montagne qu'il fallait de nouveau gravir. Je m'obstinais. Si mon enfance m'avait appris quelque chose, c'était l'endurance. Petit à petit, mon écoute s'améliora. J'entendais mieux la sève qui coulait dans les plantes, le sang dans mes veines. J'appris à comprendre mes propres intentions, à enlever et à rajouter, à sentir quand le pouvoir prenait vie et à prononcer les mots qui l'aidaient à enfler. C'était le moment pour lequel je vivais, quand tout devenait enfin clair et que le sort chantait sa note si pure pour moi et moi seule. Je n'appelais pas de dragon, ne convoquais pas de serpent. Mes premiers enchantements furent des bêtises, tout ce qui me passait par la tête. Je débutais avec un gland, dans l'idée que, si un objet était vert et qu'il poussait, nourri avec de l'eau, mon sang de naïade m'aiderait. Pendant des jours, des mois, je frottais ce gland d'huiles et d'onguents, prononçant des mots devant lui pour le faire éclore. Je tentais d'imiter les sons que j'avais entendus à Étès proférer lorsqu'il avait guéri mon visage. J'essayais les malédictions et aussi les prières, mais le gland n'en garda pas moins jalousement sa graine à l'intérieur. Je le jetai par la fenêtre avant d'en ramasser un autre, au-dessus duquel je m'accroupis de nouveau durant une éternité. J'essayais de jeter ce sort quand j'étais en colère, calme, heureuse ou à moitié distraite. Un jour, je songeai que je préférerais n'avoir aucun pouvoir plutôt que de recommencer une fois de plus. Qu'espérais-je accomplir avec une graine de chêne d'ailleurs? L'île en était pleine. Ce que je voulais vraiment, c'était une fraise des bois pour glisser sa douceur dans ma gorge irritée et c'est ce que je dis à cette coque brune. Elle se transforma si vite que mon pouce s'enfonça dans sa chair rouge et tendre. Je l'admirai avant de pousser des cris de triomphe, effrayant les oiseaux qui s'envolèrent de leur perchoir. Je ramenai une fleur flétrie à la vie, bannis les mouches de ma maison, fis mûrir des cerises hors saison et colorai le feu en vert. Si Aétès avait été là, il se serait étouffé dans sa barbe à la vue de ses petits charmes domestiques. Cependant, comme je ne savais rien, je n'étais au-dessus de rien. Mes pouvoirs se chevauchaient, tels des vagues. Je découvris que j'avais un talent pour l'illusion, provoquant l'apparition de fausses miettes pour que les souris puissent les poursuivre, faisant sauter de pâles petits poissons hors de l'eau sous le bec d'un cormoran. Je pensais à plus grande échelle. Un furet pour effrayer les taupes, une chouette pour chasser les lapins. J'appris que le meilleur moment pour récolter des plantes était au clair de lune, lorsque la rosée et l'obscurité rendaient la sève plus concentrée. J'appris ce qui poussait facilement dans un jardin et ce qui devait être laissé dans son bois. J'attrapai des serpents et découvris comment prélever leur poison. Je savais désormais extraire la goutte de venin du dard des guêpes. Je soignais un arbre mourant, tuais une plante grimpante vénéneuse rien qu'en la touchant. Toutefois, Aétès avait raison. Mon don le plus fort restait la transformation. Et c'était toujours vers lui que revenaient mes pensées. Je me plantais devant une rose et elle se changeait en iris. Versée sur les racines d'un frêne, une potion le transforma en chêne vert. Je changeais tout mon bois de chauffage en cèdre, dont le parfum remplissait chaque soir les pièces de la maison d'un parfum ténébreux et enivrant. J'attrapais une abeille pour en faire un crapaud, un scorpion pour en faire une souris. Et c'est là que je découvris les limites de mon pouvoir. La drogue avait beau être très puissante, le sort bien ficelé, le crapaud s'obstinait à vouloir voler et la souris à piquer. La transformation n'affectait que les corps et non les esprits. À ce moment, je pensais à Scylla. Son moi nymphe vivait-il toujours à l'intérieur de ce monstre à six têtes ? Ou bien les plantes issues du sang des dieux avaient-elles produit un véritable changement? Je l'ignorais. « En tout cas, m'exclamai-je dans le vide, où que tu sois, j'espère que tu éprouves de la satisfaction. » Et évidemment, c'était le cas, je le sais à présent. Ce fut durant cette période que je me retrouvai un jour au milieu des épais fourrés de la forêt. J'adorais parcourir l'île à pied, de ses points les plus proches du niveau de la mer jusqu'à ses recoins les plus élevés, à la recherche de mousses, de fougères et de plantes grimpantes, ramassant leurs feuilles pour mes charmes. C'était une fin d'après-midi, mon panier débordait. Je tournai au coin d'un buisson, et le sanglier était là. Je savais depuis quelque temps qu'il y avait des cochons sauvages sur l'île. Je les entendais pousser des cris aigus en se bousculant dans les broussailles, et je retrouvais souvent un rhododendron écrasé ou une pousse de chêne déracinée, aux glands mâchonnés. Malgré tout, c'était le premier que je voyais. Il était énorme, encore plus gros que dans mon imagination. Son dos était aussi incliné et noir que les crêtes du Mont Sainte, et ses épaules balafrées de cicatrices en forme d'éclairs dues à ses combats. Seuls les héros les plus braves affrontent ce genre de créatures, et encore, armés de javelots et accompagnés de chiens, d'archers et de serviteurs, voire d'une demi-douzaine de guerriers supplémentaires. Je n'avais que mon couteau à déterrer les plantes et mon panier, et pas une seule potion magique sous la main. Il tapa du pied, la bave blanche dégoulinant de son groin. Il abaissa ses défenses et grinça des dents. Ses yeux de cochon disaient « Je peux briser une centaine de jeunes gens et renvoyer leurs cadavres à leurs mères en larmes. Je vais t'arracher les entrailles et les manger pour déjeuner. » Je plantai mon regard dans le sien. « Essaie un peu, » le défiai-je. Il me fixa longuement. Après quoi, il tourna les talons et repartit au galop, tressautant à travers les buissons. Je dois dire que, malgré tous les sorts que j'avais déjà jetés, ce fut la première fois que je me sentis vraiment sorcière. Devant l'âtre, ce soir-là, je pensais à ces déesses sautillant, un oiseau sur l'épaule, ou bien flanqué d'un faon qui leur lèche les mains en trébuchant délicatement derrière elles. J'allais leur montrer, pensais-je. Après avoir grimpé au sommet du pic le plus élevé, j'y trouvai une trace solitaire, une fleur écrasée ici, la terre légèrement retournée là, et un peu d'écorce arrachée à coups de griffes. je concoctai une potion à base de crocus et de jasmin jaune, d'iris et de racines de cyprès déterrées à la pleine lune. Je la répandis en chantant « Je te convoque ». Elle passa ma porte en ondulant au crépuscule suivant, les muscles de ses épaules aussi durs que la pierre. Elle s'allongea en travers de mon foyer et me lécha les chevilles d'une langue râpeuse. Dans la journée, elle m'apportait des lapins et du poisson. Le soir, elle mangeait du miel au bout de mes doigts avant de s'endormir à mes pieds. Parfois, nous jouions, elle me poursuivait et me sautait à la gorge. Je sentais son haleine chaude et musquée, le poids de ses pattes de devant sur mes épaules. « Regarde !» lui disais-je en lui montrant le couteau que j'avais apporté avec moi du palais de mon père, celui qui avait une tête de lion sur le manche. « Quel est l'imbécile qui a fabriqué ça ? Il n'a jamais vu quelqu'un de ton espèce. » Elle ouvrit toute grande sa gueule brune en un bâillement. Ma chambre était pourvue d'un miroir en bronze qui montait jusqu'au plafond. En passant devant, je me reconnus à peine. Mon regard paraissait plus vif, mes traits plus anguleux, et derrière moi, ma lionne sauvage marchait familièrement. Je pensais à ce que mes cousins diraient en me voyant. Mes pieds sales à cause des travaux au jardin, mes jupes nouées aux genoux, tandis que je chantais à tue-tête de ma voix grêle. J'avais envie qu'ils viennent, de les voir ouvrir de grands yeux quand je pénétrais dans l'antre des loups, nager dans les eaux où se nourrissaient les requins. Je pouvais changer un poisson en oiseau, me battre avec ma lionne puis rester allongée sur le ventre, les cheveux détachés. J'avais envie de les entendre glapir et haleter, le souffle coupé. « Oh, elle m'a regardée ! Je vais me changer en grenouille !» Avais-je vraiment craint des créatures pareilles ? Avais-je vraiment passé 10 000 ans à me cacher dans mon trou de souris ? À présent, je comprenais l'audace d'Aétès, sa façon de se tenir au-dessus de notre père tel un sommet imposant. Quand je pratiquais ma magie, je me sentais la même envergure, le même poids. Je cherchais le char en feu d'Hélios dans le ciel. « Eh bien, qu'as-tu à me dire ? Tu m'as jeté en pâture aux corbeaux, mais il se trouve que je les préfère à toi. » Aucune réponse ne vint, ni de lui, ni de ma tante Lune. C'est lâche. Ma peau était incandescente, mes dents serrées. Ma lionne donnait des coups de queue. Personne n'a donc le courage. Personne ne va donc oser me faire face. Alors, vous voyez, à ma façon, j'étais impatiente de ce qui allait arriver.